9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour à tous, amis auditeurs. Maître Serran est ravi de vous retrouver pour une petite heure de droit. Je sais, pour certains, c'est manifestement trop court, une heure pour répondre à tous les appels. Et donc, seuls les plus rapides d'entre vous auront la chance, pour ne pas dire le bonheur, d'être en direct et de poser une question, et une seule. Mais avant de répondre à vos questions, évoquons l'actualité de la semaine. Les thèmes qui seront aujourd'hui abordés sont Karine Esquivillon et une affaire qui inquiète notre République, le port de la abaya. Alors je ne sais pas pourquoi les journalistes aiment bien insister sur chaque syllabe. Et tout d'abord l'affaire Esquivillon, cette femme disparue depuis le 27 mars dernier et qui, selon son mari, aurait pris quelques affaires et aurait volontairement quitté le domicile conjugal. Un mari qui passait régulièrement à la télé pour dire qu'il faudrait qu'elle se manifeste, au moins pour ses enfants, mais qu'il acceptait sa décision d'être parti. Sauf que, voilà, l'inspecteur Colombo est passé par là, et le mari a craqué lors de sa garde à vue, trahi notamment par son téléphone portable. Avec ses téléphones, le travail des enquêteurs a considérablement été facilité, qu'il s'agisse d'affaires de meurtre, de drogue, bref, votre meilleur ennemi, c'est le téléphone portable. Et même à un niveau moindre, combien de couples se sont séparés à cause du téléphone portable, car il est de notoriété public que le passe-temps favori des épouses, c'est de consulter le téléphone portable de monsieur. Et là, c'est souvent le drame. L'affaire Esquivillon ressemble à l'affaire Daval, à la différence que Jonathan Daval a reçu un Oscar pour son rôle de mari et pleuré, voire même à l'affaire Jubilard. Et je rappelle que Cédric Jubilard est toujours incarcéré alors que le corps de la femme n'a toujours pas été retrouvé. Rappelons tout de même que ça coûte beaucoup moins cher de divorcer que de tuer son épouse. Pour autant, je suis toujours fasciné par le comportement de ces personnes qui s'enferment dans leur histoire et qui, pour certaines d'entre elles, finissent même par y croire. Mais cette semaine a surtout été marquée, à en croire CNews et BFM, par la déferlante des abayas. Il semblerait que toutes les filles se mettent à porter une abaya pour aller au lycée, que cela tracasse tant les profs, les chefs d'établissement, que le ministre de l'Éducation nationale lui-même. Bref, c'est devenu une affaire d'État. Le Conseil français du culte musulman a été obligé d'intervenir et de déclarer que ce vêtement n'était pas un signe religieux. D'ailleurs, rappelons, mais qui s'en souvient, qu'en juin 2009, année où j'avais encore des cheveux, mon cher Philippe, et j'étais tout en muscles, un défilé de abaya a eu lieu au Georges V, rien que ça, abaya dessiné par John Galliano, Azzaro, Nina Ricci, J3 et autres grands noms de la mode. Ça signifie bien que ce vêtement n'avait plus de signification religieuse depuis bien longtemps, comme le port du jean ou d'une quelconque robe. J'en suis à un stade où je ne supporte plus que nous devions systématiquement justifier chacun de nos gestes et désormais justifier le pourquoi du port de tel ou tel vêtement. Alors dans la mesure où on fait de cette affaire de abaya une affaire d'État, j'invite à nouveau nos élèves, lycéens, étudiants à porter, allez, tous les premiers mercredis du mois, leur abaya et djellaba. Certains diront que c'est de la provocation, ce à quoi je réponds, oui, c'est de la provocation. Mais laissons les provocations des uns et des autres de côté, car il est temps de composer le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui est toujours en djellaba et qui, sous sa djellaba, ne porterait, paraît-il, jamais rien. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Mourad Serran, vous ne nous avez pas manqué la semaine dernière, Maître Serran.
Oh.
Non, pas du tout.
Ah, voilà, mais j'allais dire, mais je sens qu'il n'est pas sincère quand il dit ça. Je vous ai manqué.
Oui, on était en train de refaire nos studios.
Oui,
comment trouvez-vous nos nouveaux studios, Maître Serran?
Extraordinaire, je vois qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il y a du bon matos, tout est beau. Et puis, le bon matos sans une personne compétente derrière, ça ne sert à rien. Donc, il y a le bon matos et il y a la personne compétente, la personne de Faudil.
Alors là, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se trame là.
C'est non, enfin vous.
C'est le club des Algériens.
Vous me connaissez. Alors
c'est
d'abord.
Razaouet Bougie.
Mais non, je le pense sincèrement. Vous me connaissez depuis maintenant un certain nombre d'années, donc je
c'est
dis
pas
en règle générale.
Faux...
Hein? Non, pas du tout. C'est vraiment pas mon truc. Bah c'est pas Faudil qui me paye.
Non, ça c'est vrai.
Hein?
Non,
d'accord.
C'est vrai.
En plus, donc, il me défend, ouais. Il me complimente, que ouais. Demander de plus.
Donc, non, mais
effectivement, il nous a manqué.
Ouais, et quand on est compétent, bah faut le signaler.
La semaine dernière, on a eu chaud, hein, Maître Serran. Ouais. On a été rapatrié en studio 2, c'était pas facile. Hein. Mais là, maintenant, ça y est, tout fonctionne. On a un magnifique, magnifique matériel. Hein.
Ouais, ouais, en tout cas, c'est du top. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose.
Voilà, et les gens pourront vous appeler. Le standard fonctionne, Faudil, parce que je ne savais pas si le standard fonctionnait ce matin.
Tout fonctionne.
Tout fonctionne, bien. Donc, vous pourrez poser vos questions en direct au 01 53 48 3000. Donc, vous avez commencé à en parler, Maître Serran, dans votre introduction, à parler de divorce. Et on va parler de gros sous. Quelles sont les règles de partage des biens des époux?
Bah oui, parce que très souvent, alors évidemment, on bataille, ce qui est légitime, hein, quand on est des enfants, sur la garde des enfants, sauf que après les enfants, comme dirait l'autre, en deuxième position, on parle du bien. Et il faut savoir que quand on est marié, quand on est propriétaire d'un bien qui a été acheté en commun, donc on est sous le régime de la communauté, les difficultés peuvent commencer. Alors les difficultés commencent évidemment à partir du moment où monsieur et madame sont véritablement en guerre. Alors vous me direz que quand il y a une procédure de divorce, en règle générale, c'est qu'il y a un mini litige, mais il y a des divorces où ça peut se passer tranquillement et sereinement. Alors ça existe tout de même, ça existe.
Ouais, il y a cette phrase magique, tu peux tout garder.
Oui, voilà.
Mais ça, alors c'est la première minute.
Mais tu peux tout garder. Ouais, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, mais même en qualité d'avocat, hein, parfois on vient nous voir et on nous dit bon, il y a madame, monsieur qui veut divorcer, mais ça m'intéresse pas. S'il veut garder ou si elle veut garder, il y a pas de problème. Sauf que à partir du moment où, alors on a d'abord le premier rendez-vous chez le juge, on se rend compte qu'effectivement le un peu où il peut tout garder, c'était sorti juste comme ça et ça ne correspond pas à une réalité. Alors il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on a un bien commun, alors le bien commun, encore une fois, c'est pas la location, je parle de monsieur et madame, son propriétaire.
Le patrimoine se compose à la fois des biens communs et des biens propres, en fait.
Alors voilà, alors les biens propres, il faut savoir que tout ce que vous avez pu acheter avant le mariage, le jour où vous divorcez,
c'est à vous.
Ouais, c'est à vous. Vous D'accord. en faites bon. Ce que vous voulez.
C'est pas dans le patrimoine.
Voilà. Ça fait pas partie du patrimoine. Ensuite, à partir du moment où je me marie aujourd'hui et que demain j'ai la mauvaise idée d'acheter un bien commun, donc à partir de ce moment-là, évidemment, c'est un patrimoine commun. Tout en sachant que, parce que souvent ça, on l'entend, on a monsieur qui nous dit, mais pendant toutes ces années, c'est moi qui ai payé le crédit et madame n'a rien payé. Ça n'a pas d'incidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis marié et à partir du moment où je suis sous le régime de la communauté légale, même si madame n'a pas investi le moindre euro, le bien appartient à monsieur et à madame. Ce à quoi on répond très souvent, et en particulier quand il y a des enfants, c'est que si madame n'a pas travaillé, parfois c'est la demande de monsieur aussi, et puis ne pas travailler, ça veut rien dire au sein d'un couple. Elle s'est occupée des enfants, elle s'est occupée de la maison, elle s'est occupée de monsieur. Mais c'est vrai que très souvent, l'homme raisonne sur le plan purement pécuniaire, en disant, mais elle a rien versé, donc je vois pas pourquoi elle aurait la moitié. Sauf que c'est la loi, et c'est la règle. Donc, dans le cas d'une procédure de divorce, il y a des mesures qui vont être prises d'abord immédiatement. Et immédiatement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais qui va conserver, de manière provisoire certes, mais pendant toute la durée de la procédure, qui
le
va
domicile.
Conserver le domicile conjugal? Et quand on est propriétaire, et quand on a un crédit en commun, alors souvent, monsieur nous dit, bon, moi je suis prêt à le laisser à madame, à charge pour madame, puisque c'est elle qui l'occupe, dans ce cas-là, de régler le crédit. Donc ça, on l'entend très souvent, sauf que ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut savoir que le magistrat va tenir compte d'abord, pour l'attribution du domicile conjugal, du fait est-ce qu'on a des enfants ou pas, et on considère, selon moi, légitimement que quand on a des enfants, il faut que les enfants puissent rester dans leur cadre habituel, et qu'on le veuille ou non, mais c'est comme ça, dans 99% des cas, c'est madame qui va obtenir la garde des enfants et la résidence des enfants. Donc, évidemment, si j'attribue à madame la garde des enfants, je ne vais pas demander à madame de prendre les enfants et de partir ailleurs. Donc, on va de facto lui accorder la résidence. Sauf que quand le bien est à crédit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que madame doit payer le crédit puisque c'est elle qui occupe les lieux? Ou alors, si le magistrat considère qu'il y a une disparité de revenus entre monsieur et madame, est-ce que monsieur doit mettre la main à la poche et régler le crédit même si le bien est occupé par madame? Et dans ce cas-là, on parle d'une attribution du domicile conjugal à titre gratuit. C'est-à-dire que madame va occuper les lieux et les dépenses qui sont liées au domicile seront réglées par monsieur. Alors évidemment, parfois, ça met monsieur en difficulté, puisqu'à partir du moment où le magistrat ne vous accorde pas le domicile conjugal, on part du principe qu'il faut bien se reloger quelque part. Et se reloger quelque part, ça se fait rarement à titre gratuit, en tout cas sur le moyen ou long terme. Donc parfois, évidemment, on a des... Le client, on a monsieur qui est entre guillemets un peu fâché en disant mais un, j'occupe pas le bien, et deux, en plus le bien est occupé par madame. Il faut savoir que, même chose, très souvent les personnes font ce type de réflexion, c'est pas parce que madame a engagé la procédure de divorce que le magistrat ne va pas lui accorder le domicile conjugal. C'est-à-dire que souvent on nous dit mais c'est pas moi qui ai demandé le divorce, c'est madame, donc pourquoi est-ce que je serais moi sanctionné? Donc ça a rien à voir. C'est-à-dire que madame peut demander le domicile conjugal même si elle est à l'initiative de la procédure de divorce. Donc cette décision dite mesure d'orientation, ce sont des mesures provisoires, va être valable tout au long de la procédure. Maintenant, là, on est dans un cas où c'est, entre guillemets, la guerre entre monsieur et madame, mais il faut savoir que les gens peuvent être raisonnables, rien n'interdit. À tous les stades de la procédure, rien n'interdit à monsieur et madame de volontairement décider de vendre le bien. Donc, je peux, moi, vendre le bien, et puis, si le bien est à crédit, avec la somme d'argent, on va apurer la dette restante et se partager ce qui reste à se partager. La pire des situations, c'est évidemment... alors, je vais utiliser le terme de la femme qui occupe le bien à titre gratuit. Alors, c'est pas un postulat, mais c'est très souvent le cas. Il faut savoir que si j'occupe le bien à titre gratuit, j'ai aucun intérêt à accélérer la procédure. C'est-à-dire que si la procédure dure un an, deux ans, trois ans, bah pendant ces un an, deux ans, trois ans, c'est toujours monsieur, si c'est monsieur qui a été condamné, qui devra quand même mettre la main à la poche. Donc dans ce type de dossier, il y en a toujours un qui a évidemment tout intérêt à aller très vite. En règle générale, c'est celui qui met la main à la poche tous les mois pour payer le crédit d'un bien qu'il n'occupe pas. Et puis l'autre qui a tout son temps, puisque je ne sors pas l'argent, donc il n'y a rien qui m'oblige à aller vite dans le cadre de la procédure. Donc souvent, c'est une sorte de guéguerre, mais vous savez, en qualité d'avocat, on ne défend pas qu'une catégorie de personnes. Donc après, c'est à l'avocat de jouer, on va dire, le caméléon. Et puis parfois, d'user, même de manière abusive, hein, mais c'est légitime, hein, c'est notre mission, de tous les éléments pour faire en sorte que la procédure dure le plus longtemps possible, tant que la situation de la cliente ne s'est pas améliorée pour être autonome financièrement. Et puis, quand on s'occupe de celui qui doit mettre la main à la poche tous les mois pour un bien qu'il n'occupe pas, ben on fait en sorte, en tout cas, d'aller vite. Mais ça, c'est important. Encore une fois, celui qui est de mauvaise foi peut faire en sorte d'occuper gratuitement le bien très longtemps. Donc s'il y a une sorte de vengeance à l'égard du conjoint, et très souvent dans ce type de procédure, c'est le cas, il y a toujours des ficelles pour, pardon pour le terme, mais emmerder l'autre comme il faut.
C'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre. Ouais. Mais à ce jeu-là, il n'y a jamais de gagnant.
Ah non, mais
de toute façon, il n'y a jamais de gagnant au jeu du plus...
Il n'y a jamais de gagnant, et en particulier quand il y a des enfants. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que très souvent, ce sont les enfants qui pâtissent de la situation. Donc il n'y a jamais de gagnant, mais il y en a toujours un qui est prêt à faire chier l'autre. En fait, pourquoi ? C'est même pas parfois pour le bien ou autre. C'est qu'on a du mal à accepter que l'autre vous quitte et que l'autre va peut-être refaire sa vie.
01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions juridiques à Maître Serran, vous êtes les bienvenus au standard 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Ouais, je vous rappelle que vous posez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000 jusqu'à 10h. Dania est avec nous. Dania, bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Oui, je voulais poser une question.
Alors attendez, Dania, vous avez mis le haut-parleur peut-être, ou le kit main libre?
Non, j'ai enlevé tout, il y a le téléphone direct.
Vous avez tout enlevé parce qu'on vous entend très très loin, Dania.
Oh.
Ah. Voilà, est-ce que Maître Serran, vous entendez mieux Dania ou pas?
Il faudra que Dania parle. Dise quelque chose.
Oh, dites quelque chose, Dania.
Allô?
Voilà, déjà, allô, c'était bien.
Ah, c'est un bon début,
voilà,
c'est bon.
Bien, ouais.
Ça fait bon?
Merci.
Alors, on vous écoute, Dania.
Oui. J'ai une question. J'ai mon mari qui est que son père a été décédé.
Alors là, Dania, ça va être compliqué. Hein.
D'accord, ben, je vous rappelle encore. Ok.
Ah, bon, voilà, c'est compliqué. Mais est-ce que vous parlez doucement exprès ou. Moi, je pense que Dania n'était pas seul.
Ouais, c'est ça, peut-être le mari qui est à côté.
Ouais. Tu vois, vous avez vu, on nous a dit que le matériel fonctionnait, Maître Serrano.
Oui, quand c'est
même, il faut quand même.
Vous avez fait la pub. Hein,
il faut roder ouais. Ces choses-là. 01 53 48 3000 pour poser vos questions. À Maître Serrano, Farid est avec nous. Farid, bonjour et bienvenue.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Farid.
Oui, j'avais posé une question au maître ou à l'avocat.
Oui.
Est-ce qu'il est possible de faire venir sa copine d'Algérie pour se marier ?
Ah, ça c'est une bonne question, Farid.
Non, je vous conseillerais plutôt de vous marier au pays. Parce que faire venir madame pour dire ben nous on va se marier, vous imaginez bien que les autorités françaises vont pas délivrer un visa pour dire écoutez venez madame et puis vous allez vous marier sur le territoire français. Donc en règle générale, les intéressés se marient au pays et à partir de là, alors d'abord vous êtes de nationalité française ?
Oui, oui. Bon.
Et à partir de là, donc vous pourrez en informer les autorités consulaires. Mais elle n'obtiendra pas de visa, entre guillemets, juste pour dire « je vais venir en France, j'ai un projet de mariage ».
Ah non, mais la fille, elle a un visa déjà, elle va venir en septembre.
Ah non, mais si elle vient, monsieur, si elle a déjà un visa, touriste ou autre, il n'y a rien qui lui interdit de se marier avec vous.
Ah voilà.
Ah oui, bien sûr, voilà, j'avais pas compris, je pensais que qu'il avait besoin d'un visa pour dire je vais aller en France pour me marier. Mais quel que soit le la raison, le motif de sa venue sur le territoire, il y a rien qui interdit aux uns et aux autres de se marier. Alors, il y a une règle quand même, c'est-à-dire que la règle étant de dire OK, vous allez vous marier, mais vous retournez au pays pour formaliser une demande de regroupement familial.
Ouais.
Donc ça peut lui être imposé quand même.
D'accord.
Voilà, donc ça, faut le savoir. Souvent, on se dit, bon, bah, je suis en France, je vais me marier, et donc on ne me demandera pas de retourner dans le pays d'origine parce que je suis marié avec une personne de nationalité française. Non, il n'y a pas d'automatisme en la matière. Donc elle peut être invitée à retourner au pays. Le visa qu'elle a obtenu, c'est un visa en qualité de quoi ?
Touriste.
D'accord, bon. Vous savez, les autorités françaises sont pas, entre guillemets, sont pas débiles. C'est-à-dire que si je viens comme touriste, la probabilité de venir comme touriste, alors sauf dans les films américains, le coup de foudre et puis on va se marier, mais la probabilité de rencontrer ma moitié et puis de dire bah maintenant je vais me marier, les autorités françaises...
Non, mais on se mariera au bout de 6 mois.
Ouais, mais son visa, il dure pas 6 mois.
Ah oui.
Ah oui, le truc c'est que le visa sera expiré.
Ouais.
Ouais, vous comprenez le truc. Mais vous la connaissez cette femme ? Vous êtes déjà vue ?
Oui, on se connaît par téléphone.
D'accord.
Ah oui, alors ça, ouais. Là vous connaissez bien.
Alors
ouais,
donc
parce que, la femme de ménage elle vient travailler chez moi et puis par l'intermédiaire de sa sœur.
Ah d'accord, mais le terme une banane, ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est-à-dire, vous avez pas l'impression monsieur que ça sent un peu mauvais tout ça ?
Non.
Non,
hein. Non.
Bah écoutez,
on
alors...
On se convient au téléphone et puis...
Non, mais d'accord. Non, mais j'entends bien, on peut discuter avec quelqu'un au téléphone, mais discuter avec quelqu'un au téléphone et se dire là tout de suite, alors qu'on s'est jamais vu, et que physiquement, on n'est peut-être pas compatible. Se dire la personne va venir, en tout cas, alors, je sais pas qui a eu l'idée du mariage, si c'est vous ou si c'est elle, mais...
Tous les deux.
Ah, les deux, d'accord. Mais elle a plus intérêt, elle, entre guillemets, à se marier avec une personne de nationalité française pour ensuite régulariser sa situation sur le territoire. Alors, moi, je l'accepte et moi, c'est mon domaine de compétence, donc il n'y a pas de difficulté, mais je me dis qu'il faut quand même faire preuve, entre guillemets, d'une grande naïveté de votre côté.
Et comment on peut justement se préserver de ça, Maître Serrano ?
Vous savez, comme dirait l'autre, il y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, je suis toujours surpris par les personnes qui disent par téléphone, par internet, et puis on va se marier le lendemain. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi connecter toutes ces neurones. C'est-à-dire que la loi ne protège pas les personnes qui n'ont pas un minimum de bon sens. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que même si monsieur, même s'il est de bonne foi, ce que je suis en train de lui dire là, lui sera reproché par les autorités françaises. Ça signifie quoi? Ça signifie que la préfecture aura le même raisonnement en disant, attendez monsieur, vous êtes jamais vu physiquement, vous connaissez depuis très peu de temps, madame vient d'arriver, elle est venue lundi, puis vous mariez la semaine suivante, même s'il attend 6 mois, c'est-à-dire même si le visa de madame expire et puis il attend 6 mois pour se marier, vous imaginez bien que certes, ils seront mariés, il n'y a pas de problème, mais qu'elle, madame aura toutes les difficultés du monde pour être régularisé. Les autorités préfectorales sont pas folles. Ça sent plus le mariage pour être régularisé, obtenir des papiers sur le territoire français, qu'un mariage d'amour. Est-ce qu'il y a un écart d'âge entre vous, monsieur, ou pas?
Comment?
Est-ce qu'il y a un écart d'âge entre vous? Est-ce que madame...
Non,
est...
il y a 10 ans d'écart.
D'accord.
J'ai 58 ans.
Pardon?
J'ai 58 ans.
D'accord. Madame a 48 ans?
44 par là.
D'accord.
Oui, enfin, c'est pas...
Ouais. Non, bon, ça va, là, c'est, ouais. C'est entre guillemets raisonnable. Elle est déjà venue sur le territoire français?
Oui, elle est déjà venue en France, oui.
Mais comme touriste ou elle a déjà...
Oui, comme touriste, oui.
D'accord, ok. Encore une fois, moi, je veux bien qu'on joue le coup des scénarios américains, mais les autorités françaises sont pas très sensibles à ça. Et vous risquez, vous risquez de vous retrouver marié avec une préfecture qui ne va pas vouloir régulariser madame. Alors ça se conteste devant un tribunal. Mais imaginez qu'un tribunal ne donne pas raison à madame, vous serez alors elle va être en situation irrégulière. Donc vous envisagerez de faire quoi? De redivorcer? Donc ensuite vous retournez voir un avocat, engager une procédure. Enfin voilà, c'est pas une décision à prendre à la légère.
Hein. D'accord, ouais.
Elle a de la famille sur le territoire français?
Je remercie l'avocat. Bon. L'avocat, je vous remercie. Et puis je remercie toute l'équipe Beurre FM. Et surtout, Vanessa, je pourrais la voir un jour au téléphone.
Avec plaisir, Farid. Restez en ligne, on vous récupère à l'antenne. Alors, on a Diane qui est avec nous au 01 53 48 3000. Diane,
bonjour.
Bienvenue.
Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup. Alors, en fait, moi, je me suis mariée avec une Française.
Oui.
Oui, on a fait notre mariage dans mon pays, à l'étranger. Et je suis là maintenant en France depuis le mois d'octobre dernier.
Oui, vous êtes rentrée dans quelles conditions, madame?
En fait, mariage, vie familiale et vie privée.
D'accord. Les autorités consulaires vous ont donné un visa?
Un visa de 1 an.
D'accord. Ensuite, vous avez saisi la préfecture?
Oui, j'ai fait le... Comment ça? À l'OFI.
Ouais.
J'ai fait tout ça, et puis tous les rendez-vous, j'ai tout fait.
D'accord.
Mais avec mon mari, il me menace tout le temps avec le dossier, là. Comment ça? Le renouvellement du titre de séjour.
Ah, d'accord, oui. Alors, c'est malheureusement...
Il me menace tout le temps, même ce matin, il me menace. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour ça.
D'accord. Alors malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que au sein d'un couple, c'est souvent la personne qui est en situation régulière et qui a une situation stabilisée qui va jouer sur la fragilité du titre de séjour, et en particulier quand on doit le renouveler, au motif que si monsieur n'accompagne pas madame, s'il fait pas le nécessaire, ou s'il envoie un courrier à la préfecture, ça pourrait mettre madame en difficulté. Donc... voilà, c'est la nature humaine, souvent on voit ça. Est-ce que vous avez l'impression, madame, que monsieur va peut-être divorcer, ou alors il n'envisage pas le divorce, mais il fait ça pour, entre guillemets, pour maintenir une certaine pression à votre rencontre?
Oui, en fait, il fait des pressions. Il me presse tout le temps. On a des problèmes en couple, nous deux, depuis un certain temps.
D'accord, mais c'est des problèmes. Alors c'est bon, comme dit Allo, dans 100% des couples, mais il y a problème et problème. C'est-à-dire que quand vous dites problème, c'est quoi? Il y a des histoires de violence. C'est quoi le fond du problème?
Oui, il m'a fait des violences psychologiques presque tous les jours.
La difficulté, c'est que malheureusement, c'est très difficile à prouver les violences psychologiques. Monsieur ne vous a pas n'a pas porté Vous a pas battu, il vous a pas frappé?
Non, il ne m'a pas frappé, non. Il ne fait pas ça. Seulement des mots, tout ça, des menaces.
Mais sa volonté, c'est quoi? C'est de dire, on va se séparer. Qu'est-ce qu'il attend de vous?
Oui, c'est ce qu'il m'a dit là, tous les jours, presque tous les jours. Je vais divorcer, je vais chercher quelques femmes ailleurs, puisqu'il parle avec des femmes.
D'accord. Alors, il faut savoir, madame, que... Alors, c'est toujours difficile de vivre avec quelqu'un qui vous met la pression au quotidien et qui use de chantage à votre égard, mais il faut savoir que si, entre guillemets, il n'y a pas de reproche vous concernant, même si demain, monsieur décide d'engager une procédure de divorce... Alors, vous serez marié, pour autant, ça ne veut pas dire que la préfecture va vous retirer automatiquement votre titre de séjour. C'est-à-dire qu'on ne pourrait vous retirer votre titre de séjour que si monsieur arrive en gros à démontrer que vous vous êtes marié que pour des papiers.
Mais non.
Non, enfin, j'entends bien, voilà. Mais si, il faudrait que monsieur démontre ça. Mais s'il ne peut pas démontrer ça... Vous allez être divorcé, donc le juge aux affaires familiales va prononcer le divorce. Pour autant, la préfecture va pas automatiquement vous dire, chère madame, puisque vous êtes plus mariée, maintenant, merci, au revoir. Il faut retourner au pays. Il faudrait que le juge considère que la responsable, c'est vous.
Ah ouais.
C'est compliqué, mais en tout cas, c'est difficile à prouver les violences psychologiques, mais ça se prouve quand même un peu.
Ouais, ça se prouve un peu, mais honnêtement, voilà, c'est-à-dire qu'il, même si vous allez voir un psy ou autre qui fait un certificat médical pour dire, écoutez, une attestation pour dire, écoutez, oui, il y a une certaine fragilité de la part de madame et autres, la difficulté à prouver, c'est pas ça, c'est de dire, est-ce qu'il y a un lien direct avec le comportement de monsieur, quand madame dit, monsieur a tel comportement, donc ça m'affecte. Moi, je sais pas. C'est peut-être dû à d'autres problèmes avec la famille de madame. Les juges, si vous n'arrivez pas à prouver de manière directe le lien de causalité, peuvent ne pas vous donner raison. Donc, c'est compliqué quand même, les violences psy.
En fait, qu'on fasse une émission là-dessus. C'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Ah non, c'est pas impossible.
C'est quand même ce qu'il faut dire.
Mais c'est un travail vraiment de longue haleine.
Voilà, Diane, ce qu'on pouvait vous dire. Merci pour votre appel. D'autres questions dans un instant. Si vous voulez interroger Maître Serran, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, tous les samedis, vous posez vos questions en direct à Maître Serran au 01 53 48 3000. Je vous rappelle qu'à 10h, vous avez rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun pour l'islam au présent, Maître Serran. Alors, nous avons Mehdi qui est avec nous. Mehdi, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Mehdi.
Ouais, bonjour Maître Serran.
Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Les présentations et les politesses d'usage étant passées, vous pouvez poser votre question à Maître Serran, Mehdi. Allez-y, ne faites pas le timide.
Alors, Maître Serran, vous m'entendez bien parce que j'entends ma voix?
Ouais, on vous entend bien, Mehdi, allez-y.
Bon, moi j'envisage d'engager une procédure de divorce avec madame.
Voilà. Ouais.
En sachant par contre qu'on vit sur le même toit.
D'accord.
Ça, c'est la question que je voulais savoir, c'est quoi des démarches que je peux faire, moi? Et comment ça se passe, en fait?
Alors, d'abord, c'est la première. A priori, c'est avec quel type de divorce? Il y a un accord entre vous ou pas du tout?
Pour l'instant, pas trop.
D'accord.
Voilà.
Alors, si c'est pas trop, c'est qu'a priori, en tout cas, dans un premier temps, il risque d'y avoir un petit conflit. Donc, la question va se poser de savoir qui va conserver le domicile. Vous avez des enfants?
Oui.
Ouais, bon, la probabilité pour que ce soit madame est plus que forte. Mais est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Pour l'instant, pas trop.
Alors, il faut savoir que le magistrat, sauf dans les couples où il y a de la violence. Mais si on veut divorcer et puis s'il n'y a pas de violence au sein du couple, le juge accorde quand même un délai à monsieur pour quitter le domicile conjugal et puis s'organiser autrement. Mais on va être clair, c'est-à-dire que le délai, ça peut être, encore une fois, si l'ambiance n'est pas tendue entre vous et madame, ça peut être maximum, on va dire 5-6 mois peut-être, si on tire sur la corde. Mais au bout d'un moment, Et je le redis, si en plus il y a des enfants, le magistrat vous demandera de quitter le domicile.
D'accord, vous conseillez en fait de sortir avant que je fasse la...
Bah, ça peut être une option. Il faut savoir que si vous sortez avant, et même si vous sortez, j'ai n'importe quoi, mais si là vous dites bon ben j'ai un point de chute et puis ce week-end je vais sortir, n'oubliez pas de passer au commissariat, de déposer une main courante pour dire voilà situation, j'envisage une procédure de divorce, je vous signale que je vais quitter le domicile conjugal, et vous pouvez même communiquer l'adresse de l'appartement que vous avez trouvé ou l'adresse d'un membre de la famille, pour pas que demain après-demain madame devant un magistrat dise bah il est parti, il a prévenu personne, on sait pas où il est. Donc ce serait bien aussi officiellement de prévenir madame. Vous voulez envoyer un SMS, un mail. Faut pas juste lui dire oralement, il faut qu'il y ait une trace.
D'accord.
Voilà, ça c'est important.
D'accord. Alors, et après la deuxième question en fait, nous on avait un bien, ça fait 2 ans en arrière, on l'a vendu. Voilà, pour l'instant on est en location. À part après, moi j'ai ma voiture à mon nom. Par contre, j'ai une entreprise. Et je voulais savoir dans mon cas comment ça se passe.
Alors, là, ça va dépendre beaucoup du moment où vous avez créé l'entreprise, de la manière dont vous avez créé l'entreprise, c'est-à-dire des statuts de cette entreprise. Donc, ça va dépendre beaucoup de ça. C'est une société qui a été créée après mariage ?
Oui.
D'accord. Dans quel cadre juridiquement ? C'est quoi les statuts de cette société ?
Ben en fait, j'ai sur 2 statuts. La première, j'étais en entreprise individuelle, et là, je suis passé en SASU.
D'accord. Donc, il faut savoir quand même que l'argent entre guillemets que vous pouvez tirer de cette activité, madame, y aura quand même droit. Alors après, moi j'ai...
D'ailleurs, souvent, aux entrepreneurs, on leur conseille de se marier avec un contrat de mariage.
Bien sûr, c'est vrai que... Parce que là,
c'est la base.
Il faut savoir quand même que, avant mariage, bon, vous allez voir le notaire et puis vous formalisez un contrat. Après mariage, rien n'interdit à l'intéressé de changer son régime juridique, mais il faut passer par un tribunal, c'est-à-dire c'est un magistrat qui va apprécier la chose pour voir s'il n'y a pas entre guillemets un loup caché, pour quelle raison vous souhaitez changer de régime matrimonial. Donc techniquement c'est possible, c'est beaucoup plus long, c'est très compliqué, mais idéalement, et en particulier quand on a un esprit d'entrepreneuriat, idéalement, il vaut mieux se marier avec un contrat de mariage. Bon, maintenant, pour vous, c'est pas le cas. Donc, évidemment, monsieur, donc si votre situation professionnelle est, entre guillemets, florissante et si ça marche bien, madame aurait le droit d'avoir, entre guillemets, sa part, bien sûr. Bon, après, moi, souvent, je le vois avec des clients. C'est-à-dire que il y a une période où il y a beaucoup de bénéfices. Et puis, curieusement, quand il y a
un divorce dans l'air,
un divorce, curieusement, quand on nous apporte les bilans, ils sont très souvent négatifs.
Ça fait 2-3 ans là déjà.
Ah non, bah après il y a cet aspect-là. Alors, j'allais dire, pardon pour le terme, volontairement ou pas, mais le magistrat va se fonder sur des documents. Donc si effectivement c'est du négatif ou si ça vole pas haut, La conséquence sera directe pour madame, bien sûr.
D'accord.
Madame fait quoi dans la vie ?
Là, elle travaille dans une association.
D'accord. Et vous avez combien d'enfants ?
2 enfants.
D'accord. Bon, après, vous savez, c'est toujours un cap difficile, hein, la procédure de divorce, mais... il vaut mieux, comme dirait l'autre, si on s'entend pas, engager une procédure au plus vite, parce que parfois ça dégénère et ça devient très pénible, parce qu'on peut aussi basculer du côté de monsieur ou de madame dans la violence, et puis ça rend service à personne, et encore moins aux enfants quand on a des enfants.
Bah après, on a essayé.
C'est le mektoub, c'est comme ça. C'est-à-dire que.
On a essayé que ça marche et tout ça, mais finalement.
Vous savez, après, c'est ainsi va la vie. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'après avoir essayé, ça ne fonctionne toujours pas, oui, parfois, il vaut mieux se séparer autant que faire se peut, tranquillement.
Ben justement, moi, sur la deuxième question, je l'ai posée, c'est surtout pour elle. Parce que moi, on ne sait jamais si la société, il y a des problèmes. J'ai pas envie qu'elle se tombe sur sa tête. C'est surtout ça.
Oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que vous êtes une bonne âme et vous pensez aussi à madame, puisque qui dit madame dit aussi des conséquences éventuellement sur les enfants. Donc vous avez raison de raisonner comme ça. Mais encore faut-il qu'elle soit sur la même longueur d'onde. Mais ça, encore une fois, vous aurez chacun votre avocat. Donc cet aspect-là se discute, alors entre monsieur et madame, évidemment, mais se discute aussi beaucoup entre avocats. Pour essayer de trouver, si c'est pas la guerre absolue entre vous, pour essayer de trouver la solution la plus adéquate et qui puisse convenir et à monsieur et à madame, et encore une fois, toujours avec la volonté de faire en sorte que ça se passe pour le mieux, pour les enfants aussi. C'est ça qui est important.
Bah oui, c'est surtout ça. Hein. Bon, bah écoutez...
Elle est sur la même longueur d'onde que vous ou pas du tout?
Ben, en fait, si vous voulez, ben, le divorce, elle le veut pas. C'est pour ça, d'ailleurs,
qu'on
a traîné des années, des années. Et moi, j'ai essayé de faire des efforts et tout ça, mais ça n'a pas marché. Cette histoire, ça ne dure pas depuis l'année dernière. Hein. Ça fait plus de 4 ans.
Et malgré ça, madame veut pas divorcer. Elle dit quoi? On peut se remettre
toujours,
ensemble.
L'espoir que
ah,
ça
d'accord.
Va s'arranger.
Ah, oui, là, c'est
ça.
Compliqué. Ouais. Après.
Et après, moi aussi, j'ai essayé, mais j'arrivais pas.
Bon. En tout cas, oui. En tout cas, c'est clair. Bon.
Ouais. Donc, faut divorcer. Hein. Si vous avez tout essayé et que ça marche pas.
Ouais, mais... Sinon, il y a l'imam Abdelali Mamoun, si vous voulez.
Il nous a dit
il y a 15 jours que c'était le meilleur conciliateur. Donc voilà, on va vous envoyer l'imam en dernier recours.
C'est vrai. Et il est moins cher qu'un avocat, je crois.
Ouais, je l'entends beaucoup lui.
Vous l'avez entendu dire qu'il allait faire des médiations. Mais vous avez tenté la médiation ou pas?
Si, je l'ai fait au moins trois fois.
Oui, non, d'accord. Donc là, vous êtes vraiment allé
trois fois, c'est deux fois de trop. Non, faut divorcer, monsieur, au bout d'un moment. Bon, madame va finir par comprendre. Et puis, vous pouvez pas rester comme ça, suspendu au bon vouloir de madame, à s'accrocher à des rêves qui n'existent plus. Bon, on a passé du bon temps, c'est terminé, merci, au revoir.
Et après, on a parlé, je lui ai dit calmement, je peux pas, là, j'arrive pas à te donner ce que t'as envie. Voilà, c'est sûr que ça.
En tout cas, quand vous en parlez très calmement, et pour vous, ça a l'air évident, ça a l'air clair, donc il n'y a pas de...
Ah oui, pour moi, c'est vraiment, voilà.
C'est clair dans votre tête, en tout cas.
Donc c'est irrattrapable.
Merci d'avoir témoigné aujourd'hui, Mehdi, merci de votre conscience.
Merci,
au revoir. Merci, maître. Alors, on va redonner le numéro de maître Serran. C'est maintenant que vous devez le noter. Si vous voulez parler à maître Serran en particulier, vous l'appelez en...
Au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Maître Serran, on vous retrouve samedi prochain dans un instant. L'imam Abdelali Mamoun, dont on parlait il y a un instant, sera avec vous pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.